Cours de philosophie du vivant par le père Marie-Dominique Philippe à Saint-Jaudard, le 13 octobre 1994.
Quelquefois, c'est très difficile de voir la frontière entre le vivant, le non-vivant et le vivant. C'est très vrai. C'est pour ça que je ne pars pas de ça. Le philosophe part toujours des problèmes le plus proches de l'expérience. Ça, il faut toujours dire ça. Parce que c'est toujours la question, mais comment voyez-vous la différence entre le vivant et le non-vivant? Où se trouve? Je ne fais pas la philosophie des virus. Je ne fais pas la philosophie de la frontière. Je pars, exactement comme pour la métaphysique, je pars du vivant le plus parfait. Pour moi, où ai-je l'expérience du se mouvoir, se mouvoir. Quand je parle, c'est pour ça qu'on aime de parler, vous voyez. La tentation de parler tout le temps, se mouvoir. C'est moi qui parle. Tandis que quand vous êtes dans le silence, vous n'avez pas l'expérience de votre vie. Sauf si vous avez une vie intérieure très grande, alors c'est merveilleux. Pas de distraction. Pour une vie intérieure, toute parole est une distraction. Sauf la parole qui est un témoignage, alors ça c'est de l'ordre surnaturel. Mais pour le vivant, chaque fois que je parle, c'est une distraction. Si j'ai une vie intérieure suffisamment forte. Mais quand je n'ai pas une vie intérieure très forte, le silence est terrible. C'est une ascèse, ça en fit de parler. Je me souviens quand chez les Dominicains, quand on entrait, on avait tout de suite une retraite de 10 jours. De silence complet, non prêché, silence complet. Oh, voyez ça. Au bout de 10 jours, on a envie de manger tous ceux qui sont autour de nous, n'est-ce pas? Et puis au bout de 10 jours, on se décide à prendre l'habit ou pas. Si on prenait l'habit au bout de 10 jours, après une retraite silencieuse de 10 jours, ce qui était une ascèse assez rude. Quand on est habitué au monde, dans le monde, on ne sait pas ce que c'est que le silence. En famille, on ne sait pas ce que c'est que le silence. Et très vite, ça revient comme ça. Quand on perd le sens de la vie religieuse, on parle. Tout le temps. C'est la première ascèse. C'est ce qui est dit dans la règle. Se taire. Dans toutes les prières, on se doit se taire le matin. Absolument. Que après, il y a l'action apostolique, mais... serait presque érigé ça en loi absolue, n'est-ce pas? Le matin, on se tait. Et se taire toute la matinée, ça maintient. C'est très important, vous voyez, de voir où est la première expérience du se mouvoir, génétiquement. Vous ne vous rappelez pas. Est-ce que c'est de crier? Sûrement. Première chose. Le cri, c'est quand même le vivant qui crie. Il a faim, il a soif, il crie. Le bébé, il crie. C'est la première expérience, je crois. Mais il y a un manque. On a voulu mesurer le boire et le manger. Le premier ordre qu'on fait, c'est ça. C'est organisé chez le vivant qui est l'homme, qui est le petit de l'homme. Organiser son appétit naturel. Il y a des temps où l'on digère. On ne mange plus. Il y a des temps où on a tout. Pas besoin d'aller chercher autre part. Alors que l'animal, regardez, podcast. Ça dit quoi, il se restreint. Et avec la maladie, il se restreint. Et avec l'âge, il se restreint. Quand j'étais jeune, je mangeais n'importe quoi. Maintenant, attention. Et puis, à la manière dont le bois prend n'importe quoi. Tous ses mauvais raies, au point de vue de la digestion, est remarquable. Il avale un petit lapin. Je ne vois pas si... pas du tout. Quand vous dormez, vous respirez. Et votre intelligence, elle n'est pas là du tout. C'est très grave de vouloir mesurer votre respiration par votre intelligence. Détendez-vous, quoi. Laissez votre respiration à l'état normal. Vous vous apercevez que chacune de ces opérations ont leur caractère spécifique, leur originalité. Évidemment, je peux modifier, je ne mange pas comme un chien. Non, je pourrais manger comme un chien. Si je voulais agacer mon voisin, je ferais ça. Je prendrais ma soupe comme le petit chien prend ça. Il happe, avec beaucoup de bruit. Et il y en a qui font ça, alors si vous dites, mon cher ami, ne mangez pas comme un petit chien. Dire pourquoi? Mais vous faites un bruit, il n'entend pas son, le bruit qu'il fait. Il entend celui du voisin. C'est très curieux le vivant, vous savez. Il faut prendre conscience de la curiosité du vivant et de toutes les opérations vitales. Vous voyez, le vitose rappelle qu'on doit comprendre la conscience qu'on a de toucher, de regarder. Parce que petit à petit, celui qui loge au sommet, c'est mon intelligence, je veux tout mesurer. Alors j'ai plus conscience du tout de toute mon activité humaine. Alors que mon activité humaine, elle est multiple, elle est diverse. C'est très important de comprendre la diversité de ces opérations, qui toutes, ce sont mes opérations vitales, qui toutes sont diverses. Et dans leur diversité, il n'y a pas de causalité, il y a des modifications. Je ne mange pas de la même manière quand j'écoute la lecture. Quand j'écoute la lecture. Que si j'écoute, que si, de fait, j'étais dans le silence. Un chien n'écoute jamais la lecture. Jamais. Alors, écouter la lecture peut modifier ma digestion. Si je suis tout yeux, tout oreille, tout tendu, c'est extraordinairement intéressant. Alors, à ce moment-là, on mange machinalement, sans aucune attention. C'est pas bon. C'est pas vertueux. Non. On sait qu'on mange. Et on doit manger correctement, comme un moine. Comme un homme bien élevé. On sait qu'on mange. Et si dans la soupe on rencontre quelque chose qui n'est pas mangeable, on ne le mange pas. Ça peut arriver, non ? Dans les lentilles, on trouve des cailloux. Ça peut arriver. Et quand la soupe est après les lentilles, on trouve du caillou, du lentille. Le chien du reste fera aussi attention. Car regardez, faites pas l'expérience, c'est pas la peine. Mettez pas un clou dans sa soupe pour voir s'il va le manger ou pas. Ordinairement, il ne le prendra pas. Mais si vous avez un chien trop civilisé, il pourra le prendre. Mais un chien qui a encore l'instinct du chien, il ne le prendra pas. Il y a un discernement, ce qui est bon, ce qui est mauvais. Et comme mon instinct, mon appétit de manducation est toujours sous la domination de mon intelligence quand on est très civilisé, l'annihilation de la vie nutritive, puisque la dialectique prend tout. Tandis qu'au contraire, si je suis réaliste, je vois que toutes ces opérations ont quelque chose d'unique, leur spécification, et elles sont une. Il faut donc qu'il y ait une source. passe pas l'intentionnalité, je ne découvre pas l'âme. Et pourtant, je découvre au-dedans de moi un monde intérieur et un monde extérieur. Le monde extérieur, je me regarde à la glace et tous les autres me voient comme ça. Le monde intérieur, je découvre mes intentions que les autres ne voient pas. Je peux me regarder dans la glace pour faire de la philosophie. Les autres disent ce qu'il est coquet. Mais non, c'est pour faire de la philosophie. Pour voir comment les autres me regardent. C'est quand même important, ça. Comment les autres me regardent. Ils me regardent toujours comme je me vois dans la glace. Je vous ai déjà dit, hein. Surprenez le petit chat qui se regarde pour la première fois dans la glace. C'est très amusant. Surtout si vous essayez de comprendre que vous faites comme ça. Il y a certains qui sont inquiets uniquement de savoir ce que les autres pensent d'eux. Comment ils les regardent. Mais quand vous regardez dans la glace, c'est pas vous quand même. Il y a en vous une intériorité qui est bien plus vous que ce que vous voyez dans les apparences. Alors les autres vous voient toujours dans les apparences. Vous voyez, il y a les deux voies qui sont très importantes pour saisir ce point de vue, ce que c'est que la source de ma vie. Il y a cette multiplicité d'expériences et l'unité. Et puis, je regarde l'intériorité et l'extériorité. Ça, je ne peux pas nier que j'ai ces opérations vitales qui sont moi, dans mon extériorité. Je parle, je fais des gestes, je marche. Je me nourris. Il y a multiples façons de s'asseoir pour prendre son repas. C'est très curieux de voir ça. Il y a la vôtre, et puis celle du voisin, qui n'est pas la même. Et puis il y a celle du moine. Quelqu'un qui n'est pas habitué du tout, d'un repas silencieux, il arrive. Oh, comme c'est curieux. Tout le monde écoute la même lecture, et chacun est dans son nez dans son assiette. Drôle d'individu. Vous voyez, intériorité, extériorité. Et par l'intériorité, vous pouvez avoir une certaine connaissance de votre âme. Une certaine connaissance. Mon âme, je la saisis de l'intérieur. Ce qu'on appelle l'âme, ce que les traditions appellent l'âme, l'intériorité. Quand vous dites, il a une grande intériorité, celui-là. Quand on regarde le Saint-Père, on voit une grande intériorité. Quand on voit le Saint-Père prier, on voit une grande intériorité. Quand on voit un moine prier, on voit une grande intériorité. Quand on regarde quelqu'un qui ne sait absolument pas ce que c'est qu'une église, il rentre, il regarde à droite, à gauche. Et quelquefois, on voit comme ça, même des moines qui sont comme extérieurs à l'église, ils regardent tout pendant toute la messe. Ou les voisines. Ah, mais c'est très peu édifiant. Aucun contact avec son âme, uniquement l'extériorité. Mais le contrôle qu'on a de l'intériorité et de l'extériorité. Quand on est dans l'extériorité, on s'inquiète toujours aux autres. Mais d'une façon qui n'est pas juste. Si tout le monde était extérieur, si tout le monde se regardait tout le temps, on serait dans une maison de verre. On n'aurait plus aucune intériorité. C'est ce qui commence à se passer. Hein. Le démon est habile. Il veut que les hommes n'aient plus que de l'extériorité. Et il renvoie promener toute l'intériorité. Par l'intériorité, vous avez une certaine conscience de l'âme. C'est important de voir ces deux voies d'accès. Très différentes. Et qui sont toutes les deux voies d'accès. moi qui mange, c'est moi qui parle, c'est moi qui pense, c'est moi qui aime, c'est moi qui dors. Il y a une intérieur. Et parmi ce moi, je vois différence. Des opérations qui favorisent l'intériorité, des opérations qui favorisent l'extériorité. Et je peux me contrôler, augmenter mon intériorité, augmenter mon extériorité. Il y a des noviciats d'extériorité, il y a des noviciats d'intériorité. Oui, il y a des noviciats d'extériorité. On habitue l'homme à ne plus regarder que les autres. La télévision, tout le temps, dans le temps, vous avez à la place d'écouter, on regarde. L'ouïe favorise l'intériorité. L'œil favorise l'extériorité. On est un monde d'extériorité. Et on a beaucoup de peine de maintenir l'intériorité. Et l'extériorité, c'est toute voile dehors. On dit tout à tout le monde. On n'a plus rien, plus de secret. Le secret est nous, mon intériorité. Je suis un homme capable de garder le secret. Ah, c'est l'intériorité. Je peux découvrir l'âme par le secret. Parce que c'est l'intériorité, la boule la plus forte, ça, la plus profonde. Vous allez expliquer de garder un secret par les apparences, pas du tout. Le secret lutte contre l'apparence. Et entrer dans une intériorité plus grande, c'est de garder le secret. Un secret qui est un vrai secret. Qui me fait plus spirituel. Qui me permet de me découvrir en profondeur. Donc vous voyez, ces deux voies qu'il faut beaucoup développer et réfléchir beaucoup. Et y a-t-il en moi deux hommes? L'homme intérieur, l'homme extérieur. Ça c'est dit chez les stoïciens. Du temps de Saint Paul. Du temps de Saint Paul. C'est pas Saint Paul qui a inventé l'homme intérieur et l'homme extérieur. C'est des philosophes stoïciens. Épictète parle de l'homme intérieur et de l'homme extérieur. Alors, le danger, vous voyez, c'est de me diviser en deux. J'ai la substance pensante. J'ai la substance corporelle, le visible et l'invisible. Je ne peux pas rester là-dessus. Pourquoi? Parce que même le visible, c'est encore moi. Mon corps, c'est moi. Mon corps, c'est pas quelque chose qui est totalement extérieur. La preuve, si on me coupe le bras, je sens bien qu'on me mutile. Mon corps, c'est moi. Même si ce corps implique quelque chose qui apparaît à l'extérieur, et ce quelque chose qui apparaît à l'extérieur me désaxe complètement, me déséquilibre complètement, puisque par mon corps, je suis vers les autres. Par l'intériorité, je suis en moi. Et je garde farouchement ce moi. Et quand quelqu'un veut me déloger de mon moi, je dis, ça ne vous regarde pas. On met une clôture. On se fabrique une clôture intérieure. Pour que le moine intérieur soit le moine. Et on montre. À l'extérieur, très bien, vous voyez. Je ne suis pas rasé ce matin, sans point d'importance. Tout le monde le voit. Ah, tu m'as laissé pousser ta barbe. Oui. Aimablement, on dit ça, déjà. Et c'est vrai, on peut laisser pousser sa barbe. Ça ne touche pas beaucoup mon âme. Je crois pas. Je crois pas que chaque fois que vous rasez, vous coupez quelque chose à votre âme. Je crois pas. Chaque fois que vous laissez pousser vos cheveux, vous les coupez. Est-ce que ça touche votre âme? Pas beaucoup. À moins que vous mettiez toute votre âme dans vos cheveux. Il y en a qui sont comme ça. Alors ceci, c'est pour vous faire comprendre l'importance de cette induction. L'unité. fait ça. Et cette vie biologique est aussi apparente. Je me souviens de quelqu'un qui avait énormément de peine de manger en commun. Si c'est la vie biologique, on devrait être seul à manger. C'est incorrect de manger en commun. C'est incorrect, la vie biologique doit se cacher. Seule la vie spirituelle peut se manifester. Oui, c'est très curieux ça. Alors que la vie biologique est visible par le corps. Mais on peut comprendre que la vie biologique, qui est ma vie individuelle, ma vie particulière et individuelle, demande d'être voilée. Parce que ce n'est pas vraiment ma vie. Je ne vis pas comme un animal. Ma vraie vie, c'est penser, aimer, imaginer. Ça, c'est ma vraie vie. Être inspiré. Tout ça dépend d'un principe unique qui est quelque chose de très particulier puisqu'il est source d'opérations spirituelles et source d'opérations biologiques. Ma vie corporelle, ma vie sensible dépend de mon âme. Et mon âme, puisqu'elle est indivisible, est présente à tout mon corps, présente au bout de mon doigt. Mon âme est présente dans tout mon corps, et elle informe le corps. Et mon âme, dans sa vitalité la plus grande, est au-delà du corps. Et elle peut avoir une vie complètement, c'est pas contradictoire. C'est extraordinairement curieux de saisir ce principe de vie, cette source de toutes mes opérations, cette source de ma vie intérieure et de ma vie, visible. Le visible et l'invisible est dépassé par l'âme. L'âme est à la fois visible par le corps. Et mon âme est à la fois invisible par elle-même. C'est très étonnant, ça. Et ça, c'est la source, mon âme, source de vie. Et cette vie, c'est mon être. Je ne peux pas séparer en moi mon être et ma vie. Et donc, si mon âme est source de mes opérations vitales, elle est source de mon être. Mais c'est différent. Mon être est un et ma vie est multiple. Alors, source de mon être, au sens le plus fort, à travers ma vie, mais pas indépendamment de ma vie. Mon âme est proprement source.